Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, rassemblement en cours à Barcelone des indépendantistes. Les condamnations de plusieurs de leurs leaders ne passent pas. Riposte demain dans la rue de celles et ceux qui approuvent les sentences. Est-ce le premier geste du président chilien? Sous pression, couvre-feu suspendu dans plusieurs villes du pays et annonce d'un remaniement ministériel. Nous serons en ligne dans un instant de Santiago du Chili. Europa City à Gonesse, dans le Val d'Oise, projet immobilier défendu cet après-midi par le collectif des vrais gens, plaidoyer de son président en fin d'édition. Les récentes condamnations des chefs de file des indépendantistes catalans à des peines de 9 à 13 ans de prison ferme pour sédition ne cessent de nourrir l'amertume de leurs partisans et par là même la colère des défenseurs du pouvoir central, fracture ouverte jamais réduite. Demain, les anti-indépendantistes parcourront un boulevard chic de la métropole catalane, des membres du gouvernement socialiste dont le ministre des Affaires étrangères, le catalan Josep Borrell, se joindront à la marche, y participeront également des élus de droite, de l'opposition de droite qui réclament au gouvernement des mesures exceptionnelles contre les violences en Catalogne à l'approche des élections législatives du 10 novembre. Le camp indépendantiste, comme je vous le disais, a décidé de défiler en masse en cette fin de journée. Sur place, Juliette Jay.
Des dizaines de milliers de manifestants sont actuellement rassemblés dans le centre de Barcelone. Ils portent sur le dos des drapeaux catalans aux couleurs rouge, jaune et bleu et scandent « Liberté aux prisonniers politiques ». Vive la République catalane. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est transversal et la devise liberté. Les organisateurs ont voulu faire de cette manifestation la plus importante depuis celle d'il y a 8 jours où 525 millions de 1000 Catalans avaient envahi les rues. Cette fois, plus d'une centaine d'organisations ont répondu à l'appel des deux associations principales et 400 bus ont été affrétés pour transporter les manifestants venus d'autres villes de Catalogne. L'image qui reste pour l'instant, c'est celle du chef du gouvernement, Quim Torra, qui a salué les familles des dirigeants emprisonnés qui sont aujourd'hui en tête de file du cortège.
Merci à vous, Juliette. Vous étiez en direct de Barcelone. Encore des violences en Irak. 6 morts ce samedi dans le sud du pays, à Bagdad, où la maison d'un officiel a été incendiée. La classe politique et ses représentations sont ciblées en priorité par celles et ceux qui œuvrent à la chute du régime. Incarnation de la corruption. Précision de Bagdad, de Lucille Wasserman.
La situation est toujours extrêmement tendue à Bagdad. Des centaines de manifestants se sont une nouvelle fois rassemblés aujourd'hui sur la place Tahrir et ce, pour le deuxième jour consécutif depuis la reprise des manifestations. Régulièrement, ces protestataires essayent d'avancer vers le pont qui fait face à ce point de rassemblement et qui mène à la zone verte, ce quartier ultra sécurisé à Bagdad où se trouvent la plupart des institutions politiques. Ils essayent donc d'accéder à ce quartier, mais les forces de sécurité les repoussent, ils les repoussent comme hier avec l'aide de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes, ces grenades qui sont tirées en l'air mais aussi en direction des manifestants et notamment en direction de leur visage. C'est en tout cas ce que disent des témoins sur place, ajoutant qu'elles auraient fait donc de nombreuses victimes depuis hier. De l'autre côté du Tigre, je vous le disais, la sécurité autour de la zone verte a été largement renforcée. Les murs de protection qui avaient été retirés au cours des derniers mois ont été réinstallés et il est donc impossible aujourd'hui de circuler dans et autour de ce quartier, la zone verte, où devait se tenir aujourd'hui une session du Parlement pour répondre aux manifestations, mais qui a été annulée faute de participation suffisante.
10e jour de colère au Liban, là encore, les foules conspuent les agissements des membres du gouvernement et leur indigne gestion des fonds publics. Plusieurs routes du pays débloquées par l'armée ont été réinvesties par les manifestants. Au Chili, couvre-feu levé dans plusieurs villes du pays au lendemain d'une manifestation qui a réuni plus d'1,2 million de personnes à Santiago, la plus importante depuis au moins 30 ans. Le président Sébastien Piñera dit avoir entendu le message des citoyens en lutte pour, je cite, « une société plus juste et plus solidaire ». Fin de citation, le président qui annonce ce soir un remaniement ministériel. Bonsoir Justine Fontaine.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Vous êtes correspondante de France Culture au Chili. Est-ce un geste politique de nature à satisfaire la rue? Une première question, Justine. D'autant que le président s'est dit aussi prêt à lever l'état d'urgence dans tout le pays à compter de demain soir.
Oui, en tout cas, le président semble vouloir montrer qu'il a compris la colère des manifestants, qu'il entend leurs demandes. Difficile de rester muet quand même après des manifestations historiques hier à travers tout le pays. Jamais autant de personnes n'étaient descendues dans les rues depuis au moins 1988, quand les Chiliens s'étaient mobilisés alors pour dire non au général Pinochet. Hier, beaucoup de manifestants demandaient la démission du président, très critiqué notamment pour avoir mis en place l'état d'urgence et le couvre-feu dans le pays, des mesures inédites depuis la dictature. « Nous ne sommes pas en guerre », criaient par exemple ces citoyens chiliens, en réaction aux déclarations en ce sens du président dimanche soir, dépassées par les émeutes qui ont eu lieu le week-end dernier, malgré l'état d'urgence. Le président avait déjà changé un peu de ton mardi en annonçant une série de mesures sociales, notamment des hausses des minima sociaux. Aujourd'hui, il fait donc un pas supplémentaire en direction des manifestants. Il n'a pas précisé quand serait annoncée la composition de son nouveau gouvernement, mais il sera par exemple très difficile pour lui de garder son ministre de l'économie, mais aussi son ministre de l'Intérieur, particulièrement décrié aujourd'hui à cause des violences policières qui ont fait des centaines de blessés et plusieurs morts depuis la semaine dernière.
Merci à vous, Justine Fontaine, en direct de Santiago du Chili. Il est 18h06, vous écoutez Journal de France Culture. Un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, des centaines de riverains de cette unité propriété d'un groupe chimique américain se sont rassemblés devant le palais de justice de la ville pour brandir de nombreuses pancartes aux slogans éloquents, parmi lesquels « Notre passé sans Lubrizol, notre avenir sans le cancer ». Il se prénomme le collectif des vrais gens, ces gens favorables au projet controversé Europa City envisagé à Gonesse, dans le Val-d'Oise, un complexe immobilier dont la pertinence écologique, sociale et économique est contestée. Qui sont ces vrais gens? Écoutons le président du collectif en faveur du projet. Il estime qu'il faut y voir un gisement d'emploi et un projet attendu par la jeunesse des banlieues qu'il ne s'agirait pas de délaisser. Noureddine Matoug.
Le projet d'Europa City a signé lors des débats publics le fait qu'ils allaient embaucher 75% sur le territoire. On aura besoin de gens qui s'y connaissent en termes de culture, en termes de musée. On va avoir besoin de gens qui font de l'hôtellerie et on va y avoir une base de loisirs, donc on aura besoin d'animateurs. 10 000 emplois, quand on peut en avoir 7 500 chez nous, on crache pas dessus. S'ils nous avaient dit on n'en donne que 3 000, on aurait été d'accord aussi. Parce qu'au fait, aujourd'hui, on est dans une zone où justement, on n'a rien. On n'a rien. Donc arrivé un moment, quand vous avez des projets qui viennent s'installer chez vous, mais il faut savoir les accueillir. J'appelle les ministres et j'appelle le président à venir sur le territoire. Il verra un petit peu dans quelle misère vivent les gens chez nous. Parce que là, on n'est pas à l'Élysée, on n'est pas à Neuilly ou dans le 16e. Là, on est à Villers-le-Bel, Gonesse, Sarcelles, Arnouville. On est dans un secteur où il y a plus de 70% de chômage chez les jeunes. Donc arrêtons. Si ce projet s'arrête, c'est l'abandon de la banlieue. Et ils en assumeront les conséquences derrière. On a eu les émeutes de Villers-le-Bel. On sait qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer. Si les jeunes n'ont pas un peu d'espoir, arrivé à un moment, ils vont nous lâcher dans les bras.
Noureddine Matoug, président du collectif en faveur du projet Europa City, envisagé à Gonesse, dans le Val-d'Oise. Il était en compagnie de Jeanne Dossé. Aux États-Unis, la Californie en pleine saison des incendies. Des milliers de pompiers luttent actuellement contre les flammes à travers le Golden State. Deux sinistres, notamment, mobilisent le plus de moyens. Le premier ravage les vignes, des vignes près de San Francisco. Le second menace Los Angeles. On fait le point depuis New York avec Loïc Loury.
Près de 30 degrés, une humidité faible et des vents jusqu'à 100 km/h. Voilà la recette du Tick Fire, un incendie qui ravage depuis jeudi la région de Los Angeles. 50 000 personnes ont dû être évacuées. Des milliers d'habitations sont menacées par le sinistre à peine maîtrisé, malgré l'action de 1 300 pompiers, de bombardiers d'eau et d'hélicoptères. En prévention, toutes les écoles de la région ont été fermées. 6 maisons au moins ont été détruites, 4000 hectares ont brûlé. Au nord, près de San Francisco, les dégâts sont plus importants. 24 000 hectares et une cinquantaine de bâtiments perdus. Le comté viticole de Sonoma est en proie aux flammes. C'est une zone de guerre, affirme le gouverneur Gavin Newsom. Face à ce Kincaid Fire qui brûle depuis mercredi, ici aussi plus d'un millier de pompiers sont mobilisés. Quant à l'origine de l'incendie, ce pourrait être un incident sur une ligne électrique. L'opérateur préventivement a coupé l'électricité à près de 200 000 personnes.
Le temps de demain, en quelques mots, selon Météo France, pluvieux au nord, variable au sud de l'Hexagone, une perturbation venue de l'ouest progressera lentement vers l'est et le centre du pays. Température minimale comprise demain matin entre 6 et 12 degrés en général, 17 degrés près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, à la technique Youtou Diego Aclopes.